Bonjour, soyez la bienvenue. Alors, Nathalie Arthaud, candidate à lutte ouvrière pour l'élection présidentielle. D'abord, votre regard, évidemment, sur ce qui se passe du côté de Toulouse. Vous êtes un peu différenciée l'autre jour. C'était une volonté peut-être de votre part de ne pas vous mettre dans la même famille que les autres candidats. Mais lorsqu'on vous a parlé d'union nationale, de pause dans la campagne, vous avez rejeté ça d'un revers de main.
Oui, parce que je crois que tout un chacun était touché, était meurtri par cette tuerie. Ce sont des sentiments humains. Qu'on a tous, je crois, partagé. Enfin, tout être normalement constitué, était stupéfié, horrifié. Ça ne me rendait pas pour autant, ami, ni avec Nicolas Sarkozy, ni avec Monsieur Guillaume, ni avec Madame Le Pen.
Donc, j'ai parlé d'ami, on peut pas parler de retenue pendant un jour ou deux, de dire que finalement.
Ça, c'est autre chose, vous voyez. C'est autre chose. Et la retenue, je crois que moi, en l'occurrence, je l'ai eue. Alors que ceux qui se sont précipités à Toulouse, qui ont fait de la surenchère, qui ont instrumentalisé la suspension de la campagne, en réalité, sans la suspendre, avec beaucoup d'arrière-pensée électorale, eux n'ont pas eu...
Vous pensez à qui ?
Je pense y compris à Bayrou, je pense y compris à Hollande, je pense bien sûr à Marine Le Pen. Enfin bon, en réalité, tout le monde... Il y avait des arrière-pensées électorales dans chaque mot, dans chaque geste, y compris celui de suspendre la campagne. Et vous voyez, moi, hier, cet hommage commun où on a vu effectivement aligner Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Hollande, Eva Joly. Bon, ça a duré une heure, mais quelques minutes avant, ils s'envoyaient des noms d'oiseaux, ils se combattaient, et quelques minutes après également. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie à tout ça. Moi, je ne voilà.
C'est la seule place du président de la République pour vous de représenter la nation dans ce genre d'événement.
Écoutez, en tout cas, je pense que c'est normal qu'il y ait une présence. Et je crois encore une fois que ça a été véritablement partagé par l'ensemble du pays. Et je vois pas, y compris ce que la politique vient faire là-dedans.
Des cadres du NPA ont décidé de rejoindre Mélenchon et de lâcher M. Poutou, en quelque sorte, pour faire une sorte de vote utile à gauche de la gauche. Ça vous parle ?
Pas du tout.
Alors là, pas du tout. Ça ne m'étonne pas si je vous pose la question.
Ça ne me parle pas du tout, et justement, depuis le début, c'est y compris une des différences qu'on a avec le NPA, qui a tendance effectivement à vouloir l'unité de tout le monde, y compris jusqu'au front de gauche, en ne voyant pas de différence. Mais nous, on en voit des importantes de différences depuis le début avec le front de gauche. Depuis cette politique du front de gauche qui est défendue par Jean-Luc Mélenchon, c'est celle qu'on connaît bien, qui était celle de l'union de la gauche, qui était celle de la gauche plurielle, de créer un gouvernement soi-disant plus à gauche pour les travailleurs. Mais à chaque fois que ces gouvernements ont gouverné, ont existé, eh bien on se rend compte qu'ils se sont aplatis face au patronat, et ils ont laissé faire en fait le grand patronat, ils ont laissé faire les licenciements, ils ont laissé faire l'aggravation de l'exploitation. Donc nous rejetons cette politique-là, ces illusions-là gouvernementales, où il faudrait qu'on attende d'un gouvernement qu'il nous protège. Non, nous pensons que la réalité, c'est que les travailleurs doivent se protéger par eux-mêmes, par leur mobilisation, par leur lutte, par le rapport de force qu'ils peuvent imposer sur ceux qui ont le pouvoir sur leur vie, c'est-à-dire effectivement le patronat, les banquiers, tous ceux qui ont ce pouvoir économique.
Vous préférez rester un peu isolé, c'est une tactique, j'allais dire, plutôt que l'unité. Pas d'unité nationale, pas d'unité avec le front de gauche, c'est votre voix à 0,5% d'intention de vote.
C'est pas une question d'unité, c'est une question de défendre son programme, ses idées. Nous avons un programme de lutte. Un programme de lutte, nous disons qu'ici, on veut interdire les licenciements, et c'est ce qu'il faudrait face à cette situation où il y a une hémorragie de fermeture d'usine. Si on veut imposer des augmentations de salaire, le SMIC y compris à 1700 euros, si on veut que les travailleurs puissent contrôler ce qui se passe dans les entreprises, il faut bien sûr des luttes, il faut des mobilisations, il faut au moins des luttes de l'ampleur de celles de mai-juin 1936, de mai-juin 1968, et voilà. Voilà, vous savez, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême. Ni Mitterrand, ni aucun sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont arraché. Ils l'ont arraché de haute lutte. Donc c'est toute notre politique, et c'est pas celle que Jean-Luc Mélenchon indique aujourd'hui. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, il se répartisse le travail avec Hollande. Il y a une division du travail entre eux. Hollande, très présidentiable, très rassembleur, très au centre. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui va effectivement rattacher au char du futur gouvernement ceux qui sont un peu méfiants, ceux qui voudraient aller plus loin, etc. Voilà, c'est une division de travail. C'est une autre façon Voter Mélenchon, c'est une autre façon de voter Hollande, finalement.
On l'a bien compris. On va parler d'Arlette Laguiller. Je sais que la dernière fois que je vous avais posé cette question, puisqu'on vous a reçu déjà dans cette émission, je vous avais dit, est-ce que ça vous agace? Vous m'avez dit, non, je revendique tout à fait la filiation. Eh bien, on est allé rencontrer le public. C'est pas un sondage, c'est juste un micro-trottoir. Est-ce que Nathalie Arthaud est en train de faire sa place par rapport à Arlette Laguiller?
Non, elle est moins dynamique et moins près du peuple, puisqu'aujourd'hui, il faut que tous les politiques soient près du peuple.
Non, parce qu'elle est moins connue. On n'entend pas beaucoup parler d'elle. Voilà.
C'est vrai qu'il y a un changement, mais après, de ce côté-là, ce qu'on voit le plus, c'est par rapport à l'antenne. Au final, on ne la voit pas tant que ça. On voit surtout les autres gros candidats. Elle est un petit peu plus discrète dans sa communication et donc, du coup, on la voit un petit peu moins. Donc, ça marque un petit peu moins les esprits. C'est dommage.
Arlette, je sais pas, ça fait 30 ans qu'elle faisait la politique, qu'elle se présente. Pour moi, Lutte Ouvrière, c'est toujours Arlette Laguiller, oui.
Oui, elle est assez jeune, elle représente bien son parti, elle est dans son époque, mais elle n'a pas encore la visibilité et l'ancienneté d'Arlette Laguiller. Donc ce sera au fil des campagnes et des années qu'elle pourra affirmer davantage sa personnalité, sa visibilité sur le plan politique.
Ce sera gagné quand on vous appellera Nathalie, comme on l'appelle Arlette.
Je constate qu'il y a déjà un progrès, parce que un micro-trottoir précédent, vraiment, alors là, ne parlait Nathalie Arthaud, ça ne parlait vraiment à personne. Ben, là, je constate qu'il y a un petit peu, effectivement, un progrès. Bon, Arlette Laguiller s'est présentée 6 fois, l'élection présidentielle, donc effectivement...
Et dans puis, 30 donc, ans sur ce plateau,
et elle a pu démontrer, effectivement, sa fidélité, justement, au camp des travailleurs.
Alors, j'ai un petit questionnaire présidentiel, je vous le soumets comme à chacun de mes candidats. Où et quand a germé chez vous l'idée d'une candidature à la présidence de la République? C'est intéressant, compte tenu de votre parti, qui est un parti de combat, vous le disiez, un programme de combat, de lutte. Quand vous vous êtes dit, finalement, je vais quand même rentrer dans le système et pouvoir un jour être candidate, pour l'instant.
Vous savez, pour moi, c'est pas un combat solitaire du tout. C'est la continuation de mon militantisme. Et c'est une grande tradition, y compris des communistes révolutionnaires, de ceux qui veulent changer la société, que... de défendre leurs idées à toutes les élections, sans pour autant s'intégrer dans ce système politique, où quand même, il y a quand même beaucoup de, d'escroqueries, à nous faire croire que ce sont ceux pour qui on vote, qui ont le véritable pouvoir. Parce que là encore, ceux qui tirent les ficelles, en réalité, c'est les marchés financiers, c'est les puissances de l'argent qui dominent et qui dictent bien souvent aux politiques ce qu'ils ont à faire.
Quel est le trait principal d'un candidat? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Vous avez peut-être découvert d'ailleurs au fil des semaines de cette campagne. Quel est le trait principal de caractère qu'il faut avoir pour être candidat et un jour pouvoir être président?
De notre point de vue, parce que je ne vais pas parler ni pour l'UMP ni pour les autres. Non, mais de notre point de vue, il faut surtout avoir, être militant, être engagé, et puis, avoir le soutien de ses camarades. Moi, j'étais porte-parole de nationale de lutte ouvrière depuis décembre 2008, et mes camarades ont considéré que finalement, je les représentais bien, et donc m'ont demandé d'être cette candidate. Mais voilà, c'est.
Et quelle est la faiblesse qu'il ne faut pas avoir pour mener une campagne?
La faiblesse.
Avoir besoin de 15 heures de sommeil par nuit.
Non, peut-être manquer de confiance en soi. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile, y compris quand on est une femme. C'est pas ce qu'on apprend tout de suite, quand on est une femme, d'avoir confiance en soi et de s'affirmer. C'est plutôt ce qu'on apprend aux garçons. Donc voilà, ça, il faut aussi le gagner quand on est une femme.
Quelle est la particularité que vous aimez chez les Français?
Oh, je crois qu'il y a eu des grandes luttes. Je crois qu'il y a eu des grandes mobilisations, qu'il y a eu des grandes. Je pense à la Commune de Paris, je pense à la Révolution française, évidemment. Donc, cet esprit-là, oui, d'insoumission et d'être effectivement en mesure de se battre. Mais je crois qu'en réalité, y compris cet esprit-là. Il est quand même bien partagé. Il est quand même bien partagé à l'échelle du monde. Parce que, y compris des révoltes et des révolutions, on en a vu dans quasiment tous les pays, en réalité.
Quelle est la particularité que vous regrettez chez le peuple français?
Moi, c'est justement le mettre comme ça des, enfin, dissocier, distinguer, différencier des peuples en bloc comme ça, moi, c'est pas ma façon de faire.
C'est une réponse.
Non, parce que, en réalité, dans, D'abord, peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Madame Bettencourt fait partie du peuple? Est-ce que la famille Peugeot fait partie du peuple?
Française.
Est-ce que Monsieur Hersant, hein, le grand mania de la presse, qui est allé se mettre à l'abri ses milliards en Suisse, qui a liquidé, paru vendu et mis sur le carreau 1600, fait partie du peuple? Moi, je ne sais pas. Non, moi, je parle plutôt des travailleurs. Je vois que les différences qui comptent dans la société, quand même, c'est des différences.
On reproche à Nicolas Sarkozy d'opposer
entre
les
exploités.
Vous êtes dans la même veine.
Oui, absolument. Mais parce que c'est pas moi qui les oppose, c'est la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des exploités, qu'il y a des exploiteurs, qu'il y en a qui ont le pouvoir dans cette économie, le pouvoir de l'argent, et qui ont dans leurs mains la vie de millions de travailleurs, qui peuvent décider de la vie ou de la mort des entreprises. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc, dans la société, on n'est pas tous à égalité, non. Il y a une lutte de classe, vous savez. Comment expliquer autrement que dans cette crise, les dirigeants les plus fortunés s'en sortent indemnes avec toute leur fortune, et que ce sont les travailleurs qui payent? C'est pas le Saint-Esprit, hein, c'est le résultat d'une politique. Et moi, cette politique, je l'appelle la lutte de classe.
Alors, puisque vous acceptez le jeu des présidentielles, si vous étiez élu, quelle est la mesure que vous mettriez en place en premier? La mesure?
L'interdiction des licenciements. Voilà. De la même façon qu'on fait des trêves hivernales, hein, et qu'on empêche effectivement les expulsions locatives en période d'hiver, je pense que dans cette période de crise, la première mesure à prendre, c'est l'interdiction des licenciements. Parce que les travailleurs, quand ils perdent leur emploi, ils perdent tout. Voilà. C'est leur vie, c'est une descente aux enfers. Et ça va très très vite, hein. Ça va très vite. Aujourd'hui, il y a des travailleurs qui se retrouvent privés effectivement de leur emploi, alors même s'ils ont l'allocation au chômage, n'empêche qu'ils peuvent plus faire face. Plus faire face à toutes leurs factures, à payer leur maison, ils peuvent plus faire face. Donc c'est effectivement ça, et c'est d'abord ça, hein, qu'il faut changer. Et il faut que les profits présents, qui existent encore, il faut que les profits, y compris passés, pourquoi pas, et y compris les fortunes accumulées, servent à garantir l'emploi et les salaires de chacun.
Nathalie Arthaud, vous avez croisé des concurrents, évidemment, dans cette lutte pour la présidentielle, des équipes de concurrents. Est-ce qu'il y en a un que vous accueilleriez volontiers dans votre équipe, puisque vous avez des rencontres en disant, tiens, celui-là, il a de bonnes idées, il a quelque chose...
Bah écoutez, moi, je suis proche de Philippe Poutou, c'est évident, hein. Je suis proche de lui, n'empêche qu'on avait, on est deux courants avec des sensibilités différentes, des positions aussi différentes sur certains points, avec une identité aussi, qu'on veut différente. Nous sommes communistes, révolutionnaires, nous pensons que cette société capitaliste, il faut opposer une autre façon d'organiser l'économie, une autre base, exproprier cette classe capitaliste là qui dirige l'économie, qui la dirige dans le mur, qui la dirige très mal. Donc on a des différences qu'on a voulu chacun faire entendre dans cette campagne, mais c'est en toute fraternité, je dirais, hein, voilà. D'accord. Donc et il y aura donc le choix, y compris à l'extrême gauche.
Si vous étiez élu, votre première pensée irait pour qui?
Si j'étais élue, ça veut dire qu'il y aurait, je pense, des millions de travailleurs dans la rue, qu'il y aurait eu beaucoup de choses qui se seraient passées sur le terrain social, que les travailleurs auraient pris conscience que justement ils peuvent, par leur force collective, changer les choses, et y compris prendre leur sort en main, prendre leur avenir en main. Donc je crois que, eh bien, je penserais à ce changement fondamental, hein, de fond, et que je serais pas la seule, ce serait vraiment un changement, l'irruption sur la scène politique de millions de femmes et d'hommes.
Et la première visite symbolique que vous aimeriez y rendre si jamais votre courant était au pouvoir?
Alors là, c'est assez difficile. Moi, je me sens de toute façon profondément internationaliste. Donc je me sens de toute façon, je me sens proche de chaque être humain qui peut naître, y compris aujourd'hui, à cette seconde-là, sur la planète. Donc c'est difficile de dire... quel pays ou quelle visite. En tout cas, non, mais moi, je me sentirais pas de toute façon au-dessus, hein, au-dessus du lot. Je crois que non, s'il y avait une telle situation, ça serait une nouvelle page, en fait, de l'histoire qui s'écrirait par l'intervention, l'activité consciente de millions de femmes et d'hommes.
Merci Nathalie Arthaud, nous respectons l'égalité de parole donc dans cette émission, 20 émissions pour 10 candidats, donc vous avez été notre invité aujourd'hui. C'est Jean-Pierre Mercier qui vous représentera dans la deuxième émission consacrée à lutte ouvrière et à votre élection.
Je vous remercie.
Merci de nous avoir rendu visite. Dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau, puisque Robert Damias, Anne Levad, Jean-Daniel Lévy et Denis Jambard vont nous rejoindre. Nathalie Arthaud, je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
À bientôt. Merci.